Bonjour à tous.
Cette machine, c'est celle qui changera le plus notre vie dans l'avenir.
C'est pour aujourd'hui, allez, pour demain.
Qu'est-ce qui a changé ?
Avec la transformation numérique, la santé devient de plus en plus connectée. Trois quarts des Français se disent concernés par le sujet et même favorables à l'usage des nouvelles technologies pour être mieux informés, mieux suivis, voire mieux soignés.
France Inter, c'est pour aujourd'hui ou pour demain ?
C'est pour aujourd'hui ou pour demain ?
Didier Siamour.
Que ce soit donc pour l'information avec le dossier médical partagé ou pour la télésanté, c'est-à-dire la consultation et la surveillance à distance et même la réalisation d'un acte médical ou chirurgical, le numérique a profondément modifié notre système de santé. Mais avec l'omniprésence du smartphone, la multiplication des objets connectés, l'émergence de nombreuses start-up et l'intérêt grandissant de géants comme Google et IBM, la révolution qui touche ce qu'on appelle l'e-santé n'en serait qu'à ses balbutiements. Les nouvelles technologies vont-elles aider les médecins et le système de santé à réaliser ce qu'ils n'arrivent plus ou pas encore à faire ? Et se dirige-t-on vers une médecine sans médecin ? Pour en parler avec nous ce matin, Cécile Monteil, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes médecin aux urgences pédiatriques de l'hôpital Robert Debré, fondatrice d'Hippocrate, communauté de médecins ouverts aux nouvelles technologies, c'est
tout
ça ?
Tout à fait.
Yvani Caillé, vous êtes, vous, fondatrice et dirigeante de Rénalou, une association de patients. Bonjour.
Bonjour.
Et enfin, Franck Bodineau, médecin, vous êtes fondateur de la société H4D qui a conçu la première cabine de télésanté, la Consulte Station. Bonjour.
Bonjour.
Enfin, à nos côtés, Damien Leloup, journaliste responsable de la rubrique Pixel au quotidien Le Monde, qui est partenaire de l'émission. Bonjour Damien.
Bonjour.
Nous allons d'ailleurs commencer avec vous, Damien. Alors, notre spécialiste de la transformation numérique que vous auscultez pour Le Monde, vous allez nous parler d'un docteur du 21e siècle, assez particulier, mais on n'ira pas dire jusqu'à dire un médecin malgré lui.
Effectivement, je ne sais pas ce qu'il en est pour vous Didier, mais pour beaucoup de patients, le médecin traitant c'est devenu Google. 1% des recherches sur Google concernent la santé, soit à la bagatelle de 400 recherches par seconde. Alors, il faut reconnaître qu'il y a de bonnes raisons à ça. Déjà, c'est plus facile d'avoir un rendez-vous avec Google qu'avec un ophtalmo. Ensuite, c'est pratique, surtout quand on est un peu hypochondriaque. On peut assez facilement vérifier que oui, cette petite douleur récurrente à l'estomac peut bien être le signe avant-coureur d'un cancer et qu'il est donc plus sage de consulter. En plus, votre dossier médical chez Google est toujours bien à jour, pas besoin de sortir sa carte vitale, Google en sait plus sur votre santé que votre médecin traitant.
Mais comment peut-il en savoir autant ?
Alors je vais vous donner un exemple. Mon généraliste, il sait que cet hiver j'ai eu la grippe, parce que je suis allé le consulter. Mais ça, Google le sait aussi. D'abord parce que j'ai tapé « symptômes grippe » dans mon navigateur avant de prendre rendez-vous chez mon généraliste, et aussi parce que j'ai noté ce rendez-vous dans mon agenda Google. Mais Google sait également que j'ai des douleurs à la cheville, parce que j'ai cherché plusieurs variantes de entorse cheville. Bon, finalement, je ne suis pas allé consulter, c'était pas si grave. Il sait aussi que le 13 mai, j'ai cherché « symptômes intoxication alimentaire » après des sushis un peu douteux. J'ai également laissé une mauvaise critique du restaurant sur Google Maps.
Passez-nous les détails. Hein.
Et encore, je n'ai pas de bracelet connecté qui mesure en permanence mon rythme cardiaque et ma tension. Alors c'est peut-être dommage, si ça se trouve, Google pourrait me prévenir que j'ai un problème avant que je ne me mette à chercher frénétiquement symptômes crise cardiaque lorsque la douleur montera dans mon bras gauche. Mais donner toutes ces données à Google, ça fait un peu réfléchir, surtout sur des sujets aussi sensibles. On dit souvent que si c'est gratuit, c'est vous le produit, une forme de tiers payant qui consiste à accéder à des services en payant avec ses informations personnelles.
Ouais, parce que Google, il ne se gêne pas pour les exploiter, ces informations.
Effectivement, la première contrepartie, c'est la publicité, bien sûr. Et il faut parfois en supporter certaines qui sont un peu dérangeantes, et je ne parle pas seulement des sites qui vous proposent des promotions exceptionnelles sur le Viagra. On n'a pas forcément envie de voir des pubs pour des crèmes contre l'eczéma ou des produits amincissants vous suivre de site en site, par exemple. D'ailleurs, aux États-Unis, où le système de santé souffre de quelques menus défauts, les gens commencent à se poser des questions sur la manière dont Google et d'autres ciblent les consommateurs, les patients, avec des publicités à caractère médical. Notamment parce qu'en matière de santé, le politique n'est jamais très loin. En mai dernier, un groupe anti-avortement a ainsi provoqué un tollé. Il utilisait la possibilité de géolocaliser ses publicités pour faire en sorte qu'elles s'affichent sur les téléphones des femmes qui rendaient visite à des centres IVG.
Ouais, un usage qui donne à réfléchir et à se méfier des requêtes que l'on soumet à Google. Merci docteur Leloup, merci pour ce diagnostic.
Pourquoi ces réticences de notre ordinateur ?
Je n'en sais rien, il semble fonctionner au ralenti.
Alors, mesdames et messieurs, les questions de la santé sont parmi les plus saisies, hein, on entendait, sur Google ou sur un autre moteur de recherche. Les sites de forums qui traitent de ce thème sont parmi les plus visités par les internautes. D'abord, ça amène forcément quelques questions, et notamment, est-ce que Internet est devenu un moyen de pallier un manque d'information des professionnels du corps médical? On va demander d'abord à celle qui représente un peu les patients ici, Ivani Caillé, selon vous.
C'est vrai qu'Internet, ça a tout changé pour les patients, puisque avant l'émergence de cet outil, l'accès à l'information médicale était très limité. C'était uniquement ce qu'on pouvait obtenir des médecins, éventuellement de livres, etc., d'émissions de télé, de radio. Et Internet, ça a donné accès aux patients à cette information qui est très large, qui peut être de l'information universitaire, issue de grands journaux médicaux, et qui concerne aussi l'information issue des patients eux-mêmes, c'est-à-dire le savoir expérientiel de la maladie, et que les personnes peuvent trouver sur les forums en échangeant avec d'autres personnes malades. Donc, à ce sens, ça a vraiment beaucoup changé la manière de percevoir l'accès à l'information par les patients. Ça leur a ouvert de nouvelles perspectives et probablement que ça modifie de manière assez profonde la relation avec leur médecin, puisqu'ils arrivent en consultation avec des informations, avec des demandes, avec des sujets précis en tête, et que ça crée un dialogue qui est tout à fait nouveau, qui n'existait pas jusque-là.
Alors, on passe de l'autre côté de la barrière, sans vouloir en dresser une, hein, mais Cécile Monteil, est-ce que vous avez, vous qui militez, on va dire, pour les nouvelles technologies, en tout cas chez les médecins, est-ce que c'est pas le revers de la médaille quand on est médecin de voir qu'aujourd'hui, en effet, le patient arrive déjà avec une certaine connaissance, bonne ou mauvaise?
Alors effectivement, il y a quelques réticences de la part des médecins que j'avoue, moi, ne pas comprendre personnellement. Peut-être que certains ont l'impression que ça nous remet en cause, mais moi, je pense que pas du tout. C'est-à-dire souvent, le patient a été voir sur Internet et il arrive en consultation. Et c'est un petit peu comme le disait très justement Monsieur Leloup, il a peur d'avoir un cancer parce qu'on a tapé un petit symptôme et qu'avec Internet, on va trouver de tout et n'importe quoi jusqu'au plus grave. Et donc nous, notre rôle de médecin, ça va être d'aider le patient à trier l'information et à l'éclairer dans ce qu'il a trouvé. Et ce qui est très intéressant, c'est que si ce patient a fait la démarche d'aller sur Internet, c'est qu'il s'intéresse à sa santé. Et donc, on va pouvoir partir sur de bonnes bases. On va pouvoir expliquer, éduquer. Et ensuite, le couple médecin-patient pourra mieux fonctionner.
Et Franck Boudineau, est-ce que vous aussi, vous êtes médecin, est-ce que vous avez l'impression aujourd'hui qu'il y a eu, du coup, une élévation de l'expertise, de la connaissance de la santé par les patients?
Alors déjà, je pense qu'il est très important que les patients soient le plus éclairés possible. Donc je pense que cette ouverture de l'information est très intéressante et ne peut aller que dans le bon sens. Comme disait Cécile, il faut maintenant que les médecins trouvent leur rôle dans cette nouvelle interaction entre les patients et les médecins, à savoir que je crois que le médecin va être là pour expliquer. Puisque généralement, ce que l'on reproche à Internet, c'est qu'il y a trop d'informations. Le médecin va être là pour guider le patient et c'est vrai que du coup, on change un petit peu cette interaction. Mais je pense que c'est extrêmement bénéfique, mais aussi pour les deux parties. Ça implique que le médecin se remette en question lui-même, qu'il continue à se former et qu'il maîtrise justement ses outils Internet. Et donc, ça nous oblige à sortir, nous médecins aussi, de notre cadre qui peut être, même si la pratique au quotidien est assez difficile, qui peut être un petit peu confortable. Donc, on a dû aussi, nous, se réapproprier ce champ-là.
Alors que deviennent, après on voit qu'il y a un usage en tout cas répandu aujourd'hui en effet d'Internet, de ces requêtes, que deviennent toutes ces informations que je transmets à des opérateurs dont je ne sais pas forcément ce qu'il va en faire? Damien Leloup y a un petit peu répondu, on en parlera dans quelques instants après la grande Sophie, les portes claquent.
France Inter, Didier Siamon, c'est pour aujourd'hui ou pour demain?
Will you remember my hand caressing the milk of your skin? We'll be a million anthems to celebrate the love we've seen. Will you remember at the end the subtle dance of fading spring? And with the same sky over our heads, your face will turn to other screens.
On ne s'est jamais revu, vu le temps qui passe. Les années qui défilent et je regarde en face. Les portes claquent sur mes joues. Les questions à devenir fou. Vu le temps qui presse, les traces sur mes joues laissent des maladresses. Pourquoi on s'est dit-tu, de toute façon on ne se reverra plus. Elle était jolie l'histoire, elle s'envola en haut des cimes. Mais le silence m'a laissé croire que j'avais commis un crime. Elle était dans ma mémoire, au bout du rêve, loin de la routine. L'indifférence d'un demi-roi que
quelques tonneaux de chevrotine. On ne s'est jamais revu, vu, vu le temps qui passe. Les années qui défilent, je regarde en face. Les portes plaques sur mes genoux, les questions à devenir fou. Vu, vu, vu le temps qui presse. Les traces sur mes joues laissent des maladresses. Pourquoi on s'est dit tu, de toute façon, on ne se reverra plus. Je m'attache au regard, au souvenir. Je les dessine à la gouache quand ils ne savent plus revenir.
Will you remember my hand cursing the milk of your skin? Would be a million attempts to celebrate the love we've seen. We never met again. Then time goes by. Switch into the room where we find the lights. Doors stand over my face. On your tongue, sour taste. Just stand, time goes by. We look to the moon, nothing left behind. The hell, we are standing here. Cause anyway, we never meet again. We'll never meet again.
Qu'est-ce que c'est qu'un beau médecin? C'est un médecin qui sait beaucoup de choses, qui a une grande expérience. C'est pour ça qu'un médecin des hôpitaux, ça sait beaucoup de choses, parce qu'il a beaucoup d'expérience. Et bien maintenant, on peut mettre toute expérience en ordinateur. Ça ne diminue en rien la valeur humaine du médecin, qui est l'intermédiaire simplement entre un ordinateur qui est un peu plus fort que son cerveau et l'homme. C'est ça la grandeur de sa fonction. Il analyse, il diagnostique, il questionne l'ordinateur, au lieu de questionner ses livres, il questionne un ordinateur. Un des plus grands ordinateurs est mis à disposition du service de la santé en Amérique et je crois qu'il va permettre de répondre à 600 000 questions et de recevoir 40 000 appels téléphoniques à la fois.
Vous venez d'entendre Louis Armand, homme d'État de l'après-guerre et académicien, qui imaginait, hein, il y a déjà presque 50 ans, la place de l'ordinateur dans le travail du médecin, ou plutôt d'ailleurs la place du médecin avec l'émergence des nouvelles technologies, qui deviendrait un intermédiaire entre le patient et l'intelligence artificielle. C'est l'un des sujets abordés ce matin sur France Inter, dont C'est pour aujourd'hui ou pour demain, consacré à l'e-santé, un magazine qui accueille Cécile Monteil, donc, qui est médecin et fondatrice d'Hippocrate, une communauté de médecins ouverte aux nouvelles technologies. Vanny Caillé, fondatrice et de l'association Renalou, qui est sur internet, renalou.com, et Franck Bodineau, médecin qui a conçu la première cabine de télésanté, la Consulte Station. Messieurs, dames, quand vous entendez cette perception de Louis Armand, est-ce qu'elle est prémonitoire selon vous, Cécile Monteil?
Bien sûr, je pense qu'il y a beaucoup de vrai. En fait, avant, le médecin avait besoin de beaucoup, beaucoup apprendre sur des bouquins et de retenir, parce que finalement, c'est pas facile d'aller chercher une information quand on a plein de bouquins. Par contre, aujourd'hui, le médecin change et n'a plus besoin de tout retenir en même temps. Il devient un vrai navigateur. Et ça, c'est une vraie compétence d'arriver à savoir exactement où aller chercher l'information en temps réel ou de façon très rapide. Et ça nous permet finalement de pouvoir mieux répondre aux besoins des patients, puisque nous sommes simplement des humains et c'est complètement impossible de tout savoir. Après, petite remarque, c'est pas négatif, c'est-à-dire que pour moi, l'homme plus la machine est de toute façon supérieur à l'homme seul ou à la machine seule. Il y a des choses que la machine fait bien mieux que l'homme et d'autres que l'homme fait bien mieux que la machine, donc c'est pas un souci, c'est complémentaire.
Yvan Caillé, vous côté patient, est-ce que, on dit souvent les nouvelles technologies, c'est une forme de désintermédiation, comme on dit, est-ce que ça veut dire que l'intermédiaire aujourd'hui, le médecin est vraiment l'intermédiaire, ou est-ce que le patient aujourd'hui a tendance à aller directement puiser des informations presque à la source, on dira?
Alors je pense qu'il ne faut pas du tout opposer le recours aux nouvelles technologies et la relation médicale. Au contraire, l'un et l'autre vont se renforcer. Je pense que ça va permettre aux patients justement d'être plus acteurs, plus impliqués et d'enrichir sa relation. relation avec son médecin et réciproquement. Les patients ne sont pas du tout en recherche de remplacer leur médecin, ils ne souhaitent pas du tout s'en passer. C'est pas ça l'idée, quoi. On est dans une, en plus dans une phase où il y a quelques décennies, on traitait des maladies aiguës. Aujourd'hui, une grande proportion de patients sont atteints de maladies chroniques. Et ce que ça change, les maladies chroniques, c'est qu'il va falloir vivre avec pendant toute une vie, ça ne va pas s'arrêter. Donc ça veut dire que la relation de soins, elle est au long cours. C'est vraiment une nécessité d'accompagnement et de partenariat dans la durée. Tout ce qui peut renforcer ce partenariat, notamment le recours aux nouvelles technologies, aux informations, aux outils qui vont permettre de fluidifier, de mieux coordonner cette relation, c'est vraiment quelque chose de précieux et ça peut aussi concourir finalement en libérant du temps respectif du médecin et du patient à rendre le soin finalement plus humain. Contrairement à ce qu'on craint souvent que ça déshumanise la médecine, moi je pense que ça peut vraiment concourir à renforcer ce côté humain de la relation.
Alors tout à l'heure on parlait des informations, hein, les informations que le patient peut donner. Est-ce qu'on a eu en France un gros sujet qu'on a appelé le DMP, le dossier médical partagé, qui essaie d'exister depuis 2004. On peut pas dire que ça ait vraiment marché. Ça aurait coûté entre 0,5 milliard et 1 milliard d'euros à la collectivité uniquement dans les investissements. Et on voit bien qu'aujourd'hui, c'est pas répandu. Franck Bodineau, selon vous, il vient d'où le problème? Il vient des médecins qui veulent pas utiliser ce système, ou ça vient aussi des patients qui veulent contrôler l'information? Où c'est que ça pêche? Alors que ça marche bien en Angleterre, par exemple.
Merci pour la question, là vous m'amenez sur un terrain un petit peu sensible. Je pense qu'il n'y a pas un responsable ou un fautif dans le non-déploiement en France du DMP. Je crois que c'est vraiment un problème multifactoriel, à la fois d'abord de l'organisation, de la manière dont le DMP est construit, et puis ce à quoi il doit répondre. Il a fallu pour ce DMP déjà mettre en place des règles d'intercompatibilité des systèmes, pardon d'employer des mots un petit peu compliqués, mais il fallait que les systèmes des pharmaciens se mettent en place, que celui des médecins se mette en place, et que l'on sache comment utiliser ce DMP. Le DMP, il faut savoir qu'il n'y a pas qu'en France qu'il y a eu des problèmes pour le mettre en œuvre. Vous parlez de l'Angleterre, c'est quand même pas si fluide que ça en Angleterre, hein, pour bien connaître le système.
A priori, c'est quand même plus répandu. En France, on est à quelques centaines de milliers de dossiers, alors qu'on devrait avoir plusieurs millions de dossiers. Cécile Montaigne, vous voulez réagir?
En fait, je pense que le problème, en tout cas, c'est pas la technologie. On est capable de faire un dossier médical personnalisé. Le problème, c'est que on essaye de le mettre en place via le gouvernement. Et en fait, je pense le gouvernement doit réguler, mais je pense pas que c'est son rôle de faire le DMP. Et ce qui se passe au final, c'est que celui qui a été construit, en fait, il a pas été construit avec tous les acteurs qui l'utilisent. Et donc, il est pas ergonome pour le médecin. Par exemple, aujourd'hui, moi, quand j'utilise mon logiciel à l'hôpital, donc aux urgences pédiatriques, quand je veux simplement commander une radio, prescrire une simple radio, c'est 17 clics. Ça fait un peu sourire les gens, mais oui, c'est vraiment 17 clics, sans compter les mots que j'ai à taper. Voilà. Et c'est un peu dans cet esprit que le DMP a été construit, c'est-à-dire que c'est construit pour une remontée des informations vers les autorités, pour arriver à codifier les actes, mettre des tarifications en place, mais c'est pas du tout fluide dans l'utilisation du médecin qu'il en fait avec son patient. Donc, je pense que ça arrivera, mais peut-être pas du gouvernement, ça arrivera peut-être du côté des start-up.
Alors, vous parliez des start-up avec les nouvelles technologies. Hein, le patient peut maintenant être plus autonome. De nombreuses sociétés développent des applications en ce sens. L'une d'entre elles, Coreab, une start-up italienne que nous avons découverte il y a un mois lors de la manifestation Futur en scène organisée par Cap Digital, le pôle compétitivité sur la transformation numérique. L'une des responsables, Marta Caleotti, nous a expliqué leur innovation.
Notre innovation est la capacité d'analyser les mouvements et développer des logiciels, des vidéo-jeux et des logiciels pour faire des évaluations. Ça peut être utilisé soit par quelqu'un qui veut faire des exercices à la maison pour sa santé, on peut dire, soit pour quelqu'un qui doit faire de la réhabilitation après des blessures ou pour, par exemple, des personnes qui ont subi une intervention au genou ou prothèse de genou ou prothèse de hanche. Par exemple, après une intervention de l'hôpital, va lui expliquer comment ça marche le produit. Le capteur va envoyer les données via Bluetooth. L'ingénieur qui a créé les produits voulait trouver une solution pour faire de la réhabilitation en s'amusant. Il y a déjà des utilisateurs. Par exemple, on a installé des produits dans des hôpitaux en Belgique et dans le nord de l'Europe aussi. Ils sont en train de faire réhabilitation après chirurgie de genoux, par exemple. Et on a aussi des collaborations avec le comité olympique international de l'Italie et aussi dans des bureaux, des salles de physiothérapistes en Italie qui font réhabilitation pour des personnes soit sportives, soit sportives pas professionnelles.
Alors, vous l'avez compris, quand Martha parle de réhabilitation, il s'agit de rééducation. Hein. Ces systèmes à distance avec des objets connectés, c'est un des apports indéniables du numérique. Une étude d'ailleurs Odoxa réalisée en début d'année montre que la très bonne perception de ces objets connectés par le public, 88% estiment qu'ils améliorent le maintien à domicile, 84% la prévention et 72% la qualité des soins. Yvan Nicaillet, vous pensez que c'est un progrès, tout ce travail qui est fait, qui permet en effet un peu plus d'autonomie?
Bien sûr, les objets connectés, ça va contribuer effectivement à l'autonomie. Mais je crois qu'il faut, y voir avant tout des outils et pas une fin en soi. Ce qu'on constate, c'est que même si l'avis des Français est extrêmement favorable, dans les pratiques, la durée d'usage de ces dispositifs aujourd'hui, elle est très faible, de l'ordre de quelques semaines. Et souvent, ils tombent en désuétude assez vite parce que c'est plus suffisamment amusant. Il y a vraiment une question d'usage qui reste posée de manière assez forte, hormis dans des situations où ce sont des outils qui existaient préalablement. Je pense au glucomètre, par exemple pour les personnes diabétiques, où là le glucomètre devient connecté, la valeur ajoutée elle est évidente et l'usage évidemment va être pérenne. Mais assez souvent c'est pas tout à fait le cas et ça pose aussi la question de la conception de ces outils qui finalement répondent pas forcément de manière toujours évidente aux réels besoins des personnes malades ou dans le cas du bien-être des usagers tout simplement. Et ça pose la question de la co-construction de ces outils avec leur destinataire qui reste souvent assez peu développée et finalement la conséquence de ça, c'est que ça répond pas tout à fait aux besoins et donc que c'est pas utilisé comme ça le pourrait.
Alors il y en a qui ont poussé la logique encore plus loin. Hein. Alors Franck Bodineau, vous êtes l'exemple type. Je rappelle, vous êtes médecin, vous avez fondé une société H4D et vous avez mis en place, vous, carrément des cabines de consultation à distance. Sans médecin dans la cabine, c'est donc le patient qui va, donc là il va être 100% autonome. Un moyen presque de lutter contre un problème que connaît la France de désertification médicale. Vous pouvez nous expliquer un peu votre projet, enfin qui est maintenant très concret?
Alors, déjà, je me permets de revenir sur ce que vous venez de dire, à savoir qu'en effet, le médecin n'est pas dans la cabine, mais le patient est toujours en lien avec le médecin. Moi, mon objectif, c'est lorsque j'étais médecin, je travaillais dans des déserts médicaux, justement, et j'étais confronté à cette problématique de terrain. Et c'est en essayant de trouver des solutions pour aider mes patients que j'ai réfléchi à utiliser ce que l'on appelait à l'époque les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Et c'est là que je voudrais faire le distinguo entre e-santé et télémédecine. Lorsque l'on est médecin, on veut faire de la médecine et là, il y a des règles, notamment de fabrication, ce que vous évoquiez, Yvani. Et j'ai inventé donc cette cabine de télémédecine qui est un vrai cabinet médical connecté, mais qui en fait n'est qu'un outil qui permet de faire le lien entre un médecin qui est souvent éloigné de son patient et le patient.
Alors expliquez-nous comment ça se passe, racontez-nous. Je suis patient, je trouve une cabine, je rentre dedans, je m'installe, qu'est-ce qui se passe?
Alors déjà, il y a un parcours. La cabine, elle n'est jamais posée toute seule. Il y a un parcours de soins. Le patient ou la patiente est malade le soir et il n'y a pas de médecin. Sa seule alternative, c'est de prendre la voiture et d'aller à une heure de là, soit à la maison médicale de garde, soit à l'hôpital. Du coup, là, ce qu'on lui propose, c'est d'appeler, comme elle le fait d'habitude, le centre 15. Nous, on a formé les médecins du centre 15. Il y a des indications à la télémédecine. Et si la personne répond à ces indications, en effet, on lui propose, ce n'est pas une obligation, de descendre en bas de chez elle. Et donc, à ce moment-là, elle est accueillie par un médiateur, qui n'est pas un professionnel de santé, qui l'accueille, qui l'installe dans la cabine. Elle met sa carte vitale. Et à ce moment-là, elle rentre par visioconférence avec un médecin qui est généralement un médecin de la maison médicale de garde ou de l'hôpital ou d'un autre pool de médecins. Et le médecin va faire d'abord son interrogatoire. Qu'est-ce qui vous arrive? Pourquoi est-ce que vous avez appelé? Quelle est votre plainte? Et après, il va disposer de toute une série de capteurs et d'instruments. Un stéthoscope pour écouter son cœur, ses poumons à distance, d'un tensiomètre pour prendre sa tension, etc. Et qui va donc lui permettre de réaliser une vraie consultation médicale à distance. Mais tout ça est parfaitement encadré.
Avec un visionnage du médecin?
Bien sûr, le patient ou la patiente voit le médecin en face, le médecin voit son patient et va lui réaliser une consultation comme dans un cabinet, à part que à ce moment-là, bien, le médecin n'est pas dans le cabinet, il est en dehors du cabinet. Et le patient ou la patiente, on va lui éviter d'aller à l'hôpital. Évidemment, s'il doit aller à l'hôpital, on ne va pas faire entrer des urgences vitales. Il ira, mais là, donc, ça permet en fait un gain de temps énorme.
Alors, là, on parlait de patients qui étaient malades. Hein, mais depuis le début de l'émission, nous parlons beaucoup des objets connectés, objets dont la particularité, quand même, est d'une grande partie, que d'une grande partie de leurs utilisateurs, eh bien, se sentent bien.
Sugar and spice, I feel nice. A sugar and spice, so nice, so nice. I got you. When I hold you in my arms, I know that I can't do no wrong. My love won't do you no harm, and I feel nice, that sugar and spice. I feel nice, that sugar and spice. So nice, so nice, I got you. I feel nice, a sugar and spice.
Vous aurez reconnu l'un des classiques de James Brown, sans doute le plus célèbre, sorti en 1965.
C'est pour aujourd'hui ou pour demain ? Sur France Inter.
James Brown, dont les chorégraphies sur scène valaient tous les programmes de santé et bien-être aujourd'hui disponibles sur Internet. Hein. Un des aspects de l'e-santé, le sujet sur lequel nous nous penchons ce matin avec nos invités Ivani Caillé, Cécile Monteuil et Franck Bodineau et toujours Damien Leloup de la rubrique Pixel du Monde. Nous avons vu jusqu'ici que les nouvelles technologies pouvaient apporter en termes, ce qu'elles pouvaient apporter en termes d'information et de télésanté, avec par exemple la télésurveillance, le suivi des patients, des technologies qui laissent encore la part belle à l'humain, donc aux médecins. Écoutons Étienne Dormeuil de la société Stimule qui a développé un service de relation entre patients et professionnels.
Il y a beaucoup de solutions qui utilisent l'intelligence artificielle ou les algorithmes pour proposer des conseils personnalisés. Nous, en fait, on est dans le sens inverse, dans le sens où on place l'humain au cœur de notre écosystème. On n'utilise pas la technologie ni les données pour créer des algorithmes. On n'a aucun algorithme. En fait, on est sur un segment où on doit adresser des populations qui sont identifiées avec des pathologies qui sont entre guillemets graves et où l'humain est nécessaire parce qu'il y a des enjeux de psychologie et émotionnels qui sont importants pour résoudre des situations. Et là, les algorithmes, que ce soit des algorithmes de même les plus poussés comme ceux de Google ou d'IBM, ne peuvent pas aujourd'hui, ni même dans 5 ans, répondre à ces spécificités parce que le patient ne souhaite pas parler à un robot tout simplement.
La part de l'humain reste importante dans ce qu'on développe encore aujourd'hui. Où fixer la limite, en fait, dans ce qu'on peut faire ou ne pas faire? Est-ce que c'est un problème uniquement technologique, Yvan Nicaillé?
Non, c'est pas un problème uniquement technologique. Je crois que les patients souhaitent être accompagnés dans leurs problèmes de santé. Et la part de l'humain, elle est plus que jamais indispensable. Encore une fois, je pense que les nouvelles technologies peuvent servir à la renforcer, à rendre cette dimension encore plus présente, en libérant du temps, en faisant une priorité, en contribuant aussi, pourquoi pas, à la formation des professionnels de santé et des médecins à cette dimension de la relation soigné-soignant. On sait aujourd'hui que l'empathie, ça s'apprend. Ça a été démontré aux États-Unis notamment. Il y a des facs de médecine qui ont développé des programmes d'enseignement de l'empathie pour les médecins. En France, on sait que une des plaintes les plus récurrentes des patients par rapport aux soins qu'ils reçoivent est la difficulté d'écoute, l'impression d'être insuffisamment soutenu, entendu. Et probablement que c'est une dimension extrêmement forte de la médecine de demain qui peut vraiment être renforcée par l'apport du digital.
Mmh. Cécile Monteil, vous avez monté carrément une association, Hippocrate, qui réunit, regroupe des médecins favorables aux nouvelles technologies, à l'introduction, au développement des nouvelles technologies. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est 100% techno ou justement on dit quand même qu'il faut aussi, c'est une manière de dire qu'il faut garder le facteur humain?
Alors bien sûr, il faut garder le facteur humain et c'est tout le but de l'association. En fait, comment est-ce que j'ai eu l'idée de créer ça? C'est simplement qu'en ayant un pied dans les deux mondes, puisque je suis à mi-temps à l'hôpital et le reste de mon temps c'est dédié à des activités de e-santé, en start-up, en journalisme, etc. Et dans le monde de la médecine, en fait, je rencontrais beaucoup de médecins qui avaient plein de bonnes idées avec les technologies pour améliorer la médecine, mais simplement ils n'avaient aucune compétence technologique et donc les idées restaient à l'état embryonnaire. Et de l'autre côté, quand je rencontrais des entrepreneurs, ils avaient aussi beaucoup d'idées dans la santé, sauf que c'était un petit peu, je veux appliquer la techno à la santé, mais j'ai pas l'expertise médicale. Et donc, comme le disait Yvani tout à l'heure, les outils n'étaient pas forcément adaptés à la pratique. Et je me suis dit, mais c'est quand même dommage. Si ces deux mondes discutaient, elles pourraient fabriquer de meilleurs outils avec des plus grandes valeurs ajoutées pour les médecins et les patients. Donc c'est de là qu'est partie l'idée. Et effectivement, l'idée d'Hippocrate, en fait, ça ne regroupe pas que des médecins, ça regroupe aussi des entrepreneurs, des ingénieurs, des designers, etc. C'est vraiment de regarder ce qui se passe un petit peu en France et dans le monde, de regarder ce qui est bien, de regarder aussi ce qui est pas bien et de se demander comment est-ce que tous ensemble, on peut créer une meilleure santé de demain avec les médecins, avec les technos et bien sûr avec les patients.
Et alors, on a vu pas mal de choses qui étaient bien. Qu'est-ce qui n'est pas bien selon vous?
Alors, je peux vous donner... Si on reste général, ce sont les technologies qui prennent du temps. C'est exactement ce que disait Yvani tout à l'heure. Si moi, dans ma pratique, on me rajoute un outil qui me fait passer 10 minutes de plus sur mon ordinateur, le dos tourné au patient, moi, ça va pas me plaire, mais le patient non plus, ça ne lui plaira pas. Donc, toutes les technos, en fait, qui ne sont pas là pour soit faire gagner en temps ou en efficacité, ça ne marchera pas. Ce que le médecin et le patient ont besoin, c'est de pouvoir être plus efficace soit dans la gestion du patient, soit le patient dans la gestion de sa maladie, pour pouvoir avoir plus de temps face à face. Alors souvent on entend les médecins qui disent oui, on a peur que ça nous prenne sur la relation le temps de parole. Et en fait, ce temps de parole aujourd'hui, quand vous allez chez votre médecin, souvent vous allez remarquer que votre médecin, vous êtes un peu comme dans un interrogatoire. Vous avez envie de vous exprimer et puis lui, ce qu'il a besoin, c'est d'avoir telle information, à quel moment, est-ce que vous avez bien pris votre traitement tous les jours, est-ce que vous avez ressenti ce type de symptômes, combien de fois, dites-moi précisément l'intensité. Et en fait, on ne peut pas s'exprimer librement. Alors que si tous ces objets connectés, ces applications pouvaient en quelque sorte faire remonter des informations qui donnent une vue de ce qui se passe dans la vie du patient au domicile, eh bien le médecin a déjà un certain nombre d'informations et il peut alors dire à son patient, exprimez-vous. Et alors là, on est dans une relation médecin-patient qui est augmentée, qui est améliorée.
Alors, le recours poussé à la technologie n'est pas récent, en fait. Rappelez-vous, en 2001, ce qu'on a appelé l'opération Lindbergh, une première en téléchirurgie.
La patiente âgée de 68 ans se trouvait le 7 septembre dernier à Strasbourg. On devait lui enlever la vésicule biliaire. Le chirurgien Jacques Maresco à New York. Autour, une équipe sur les deux pays de 80 personnes et surtout un impressionnant système robotisé baptisé Zeus. Le chirurgien à New York donnait ses ordres sur des instruments virtuels à un ordinateur qui passait ensuite par un filtre à haut débit et arrivait sur la partie extrême du robot appelé télé-effecteur qui réalisait l'opération en elle-même. La difficulté jusqu'à présent tenait à un décalage entre l'ordre, le signal donné par le chirurgien et l'image reçue. La prouesse technologique consiste à avoir réduit considérablement ce décalage. Il n'est plus visible à l'œil nu. Le chirurgien a l'impression d'être au bloc. Alors, en dehors de ce défi technologique, à quoi va servir cette démonstration? Eh bien, à terme, affirme Jacques Maresco, à la mise en place d'un réseau international, un chirurgien expert pourra partager le geste chirurgical d'une équipe dans une autre partie du monde. Dans moins d'un an, des interventions cardiaques pourraient être réalisées sur le même principe.
Alors, où en est-on 15 ans plus tard, Franck Bodineau, vous qui vous lancez maintenant, vous êtes à fond dans les nouvelles technologies. Est-ce qu'on utilise maintenant des images, d'ailleurs, par exemple, virtuelles pour anticiper les opérations? Certains évoquent même l'imprimante 3D, d'ailleurs, pour recréer des organes malades.
Écoutez, les nouvelles technologies dans ce sens-là ont eu un impact assez fabuleux. Là, on vient d'entendre une opération qui date déjà d'il y a plusieurs dizaines d'années. Voilà, exactement. Et aujourd'hui, il y a des robots qui aident les chirurgiens. Donc le chirurgien, évidemment, c'est lui qui va pratiquer l'opération, mais complètement aidé par un robot et qui va lui faciliter la tâche, qui va lui permettre d'être plus précis au bloc et probablement d'opérer de manière plus sécurisée. Donc je trouve ces nouvelles technologies absolument incroyables et comme un véritable support de l'activité médicale. Donc il faut imaginer en fait ce qu'est la pratique aujourd'hui d'un médecin qui peut être aidé. Là on parle d'un robot chirurgical, mais pour un médecin généraliste, par toute une série aussi d'instruments, en fait c'est faciliter aussi la tâche du médecin et le rendre plus efficace dans ce dans quoi il doit se concentrer, c'est-à-dire la pratique médicale.
Et Yvan Nicaillé, une question quand même qui se pose derrière tout ça, c'est qu'on voit qu'on a de plus en plus recours aux robots, aux machines, aux technologies. Quand ça se passe mal, contre qui on se retourne? On est patient, on se retourne contre le médecin, contre le détenteur de la machine, contre celui qui l'a élaboré?
Alors c'est une vraie bonne question qui est probablement amenée à se poser au plan juridique dans l'avenir. Aujourd'hui, je pense que le responsable du soin reste le médecin et il n'y a pas de dispositif qui fonctionne seul. On n'est pas encore on n'a pas encore passé ce cap et j'espère que d'ailleurs on le passera pas. Enfin, je pense qu'il reste important que il y ait encore une fois l'humain qui soit aux manettes et que la responsabilité médicale reste celle du médecin et soit pas confié à une intelligence artificielle ou à un robot. Mais effectivement, enfin, la question peut être posée.
Alors, on se posait la question au début de l'émission, est-ce que les nouvelles technologies doivent seconder ou remplacer le médecin? On voit quand même, on a cette impression que le champ des possibles est ouvert et sans limite. On entend parler d'ailleurs souvent de Watson chez IBM et ou de recherche chez Google, dont l'attrait pour la santé n'est pas récent. Écoutez ce que disait Raymond Kurzweil, qui est ingénieur en chef chez Google en 2014 lors d'une conférence à Vancouver.
Dans les 20 ans qui viennent, des nanorobots entreront dans nos cerveaux au travers nos vaisseaux capillaires. Et ils connecteront simplement notre néocortex à un serveur informatique externe. Ce sera une sorte d'extension de notre cerveau. Nous aurons alors un système de pensée hybride avec des composants biologiques et non biologiques. Mais la partie non biologique grandira de manière exponentielle. Aucune autre espèce n'a fait ça.
Alors, quand on entend ça, qu'est-ce qu'on peut penser franchement de cette perspective du côté du médecin, Cécile Montaillet? Est-ce qu'on va parler à terme à un vrai médecin ou à un être hybride?
Alors, je pense que tant que nous resterons humains tous ensemble, les médecins resteront humains de la même façon. Je pense qu'on a le patient a besoin de parler à quelqu'un qui lui ressemble. Et d'ailleurs, la relation médecin-patient fait partie intégrante du soin. Un petit truc rigolo, c'est que quand on est en consultation, souvent, le patient, au moment de sortir, il met la main sur la poignée de la porte, il se retourne et il dit « Merci docteur, ça va déjà beaucoup mieux. Il n'a pas été à la pharmacie, il n'a pas pris ses médicaments. » Après, ce qu'on vient d'entendre, c'est très intéressant dans le sens où ça fait poser la question. Il faut se demander dès maintenant vers quelle humanité est-ce qu'on veut se diriger? Qu'est-ce qu'on est en train de créer? Ce qu'on fait aujourd'hui, ça a des conséquences sur demain. Alors, est-ce qu'on veut aller vers une société du virtuel, de l'eugénisme, du transhumanisme? Je n'ai pas la réponse, mais en tout cas, les questions éthiques doivent être importantes, doivent être abordées dès maintenant.
Mmh. Yvan Nicaillé, le médecin hybride, ou le patient hybride d'ailleurs aussi?
Encore une fois, je pense que Il est important qu'on utilise tous les outils possibles et tout ce qui peut servir à améliorer, ce qui peut servir à être un plus. Un des principes dont j'aimerais qu'il reste majeur dans l'avenir, c'est qu'on ne substitue pas ce qui existe par des technologies ou par des outils qui ne viennent pas remplacer toute l'importance du soin, de la relation, de la médecine. Voilà, qu'on soit vraiment dans un dispositif d'amélioration, de complémentarité, mais pas de substitution ou finalement qui contribuerait à passer vers une médecine plus low cost où on dédierait à des machines ou à des dispositifs ce qui aujourd'hui est réalisé par des humains.
Mmh. Franck Bodineau, vous, de votre côté, vous qui avez mis en place la machine qui est en lien avec le médecin, est-ce qu'à un moment donné les deux vont se croiser ?
Alors nous, c'est quand même beaucoup plus simple. Hein. Pour le moment, à HKD, on ne parle pas de transhumanisme. Là, clairement, on parlait d'hommes augmentés. Je crois qu'il faut être quand même très vigilant parce qu'il y a toute une idéologie derrière ce qu'est en train de mettre en place Google. Et à mon sens, aujourd'hui, que ce soit les politiques ou même les médecins, on doit vraiment se poser des questions éthiques, pas qu'au niveau français, au niveau international, sur savoir ce que l'on veut devenir, dans quelle société on se projette et surtout ce que l'on veut faire des uns et des autres. Maintenant, tant que la machine reste un intermédiaire et un support de l'activité médicale, finalement, on change peu le contexte. Lorsqu'on va commencer à devenir intrusif, à mettre des capteurs dans le corps des personnes, il va falloir savoir quelle maîtrise chacun on va avoir de ces capteurs. Est-ce qu'ils vont être des capteurs malgré nous ? Est-ce qu'on va pouvoir les déclencher ? Enfin, il y a tout un tas de questions auxquelles il faut pouvoir trouver des réponses et mettre un cadre.
Damien Leloup, un petit commentaire.
Ray Kurzweil, qu'on entendait à l'instant, il est coutumier des déclarations un peu fracassantes. Mais en fait, le patient et le médecin hybride, ils sont déjà là en quelque sorte, puisque mon médecin, comme moi, on a tous les deux un téléphone portable. Les capteurs dont vous parliez à l'instant, en fait, ils existent aussi dans ces téléphones. Et on voit bien Apple, Google qui développent des applications pour le suivi du rythme cardiaque. Et du coup, la question principale qui risque de se poser, c'est plutôt le suivi, la conservation et la protection de ces données. Parce qu'en France, on a la chance d'avoir une législation très protectrice, ce qui n'est pas le cas forcément aux États-Unis.
Un frigidaire, un joli scooter, un atomixer et du dalopio, une cuisinière avec un four en verre, des tas de couverts et des pelles à gâteau.
Le basculement dans l'ère numérique n'a beau avoir que quelques années, hein, sa courte histoire est déjà jalonnée d'objets qui nous ont accompagnés avec plus ou moins de succès. Aujourd'hui, nous revenons sur le Tamagotchi, une mini-console apparue en 1996, censée apprendre aux enfants à s'occuper d'un animal, mais qui les a surtout habitués au virtuel.
On peut tenir tout un discours à un petit chien en peluche. On développe tout un discours, tout un commerce de relations avec des animaux en peluche.
Le Tamagotchi, c'est comme un animal, c'est comme un vrai animal, mais c'est pas un vrai animal, mais on s'occupe de lui comme un vrai animal.
Il s'appelait Noharu Yamashina, son nom ne vous dit sans doute rien, moi non plus d'ailleurs, avant que je le voie, mais si je vous précise que c'est l'inventeur du Tamagotchi, eh bien vos enfants vous diront sûrement ce que c'est. Monsieur Yamashina, lui, malgré toute l'attention et les soins qu'on lui a prodigués, a succombé à une longue maladie au Japon. Il avait 79 ans. Il y a un peu moins d'un an que sa société avait mis son jouet sur le marché. Depuis, tenez-vous bien, il s'en est vendu 21 millions de Tamagotchi à travers le monde.
Alors, ça, c'est le top du grotesque. J'élève mon Tamagotchi, ça vaut 69 francs.
C'est
ça. Charte du Tamagotchi. Oui. Tous les Tamagotchi sont unis entre eux par des sentiments d'amour et de loyauté. Oh. J'invente rien. J'ai dit que je ne critiquais pas, je ne critiquerai pas. Tout le monde est contre, à part les vendeurs de Tamagotchi. Je ne vais pas aboyer avec les loups. Mais les gens qui vendent ce bouquin-là, écoutez, non. Parce qu'un bouquin pour élever son Tamagotchi, pourquoi pas un restaurant pour vélo ou un psychiatre pour frigo.
Ouais.
Hein, moi, on veut bien respecter les objets, mais il ne faut pas prendre les enfants pour des imbéciles.
Oh, ton Tamagotchi est né. Nourris-le, joue avec lui et fais-le grandir. Avec le Buff, connecte-toi aux autres Tamagotchi, échange des cadeaux, des messages et rends leur visite. Plus tu as d'amis, plus ton niveau d'amitié augmente. C'est TamaFun. Viens vite sur TamagotchiFriends.com pour suivre leurs aventures. Tamagotchi Friends de Bandai.
Et l'on vit comme ça, jusqu'à la prochaine fois. Et l'on vit comme ça, jusqu'à la prochaine fois.
Je ne demanderai pas à nos invités s'ils avaient un Tamagotchi. Ils m'ont l'air encore un petit peu âgés. même s'ils sont encore très jeunes. En tout cas, merci à vous, Cécile Monteil, médecin aux urgences pédiatriques de l'hôpital Robert Debré, qui est également fondatrice d'Hippocrate, une communauté de médecins ouverts aux nouvelles technologies. Merci beaucoup, Yvan Nicaillé, vous qui avez fondé et dirigé Renalou.com, une plateforme communautaire pour les patients. Franck Bodineau, médecin fondateur de la société H4D, qui a conçu la première cabine de télésanté, la consultation. Et puis, merci, Damien Leloup, journaliste au Monde, le partenaire de l'émission. On se quitte aujourd'hui sur la bande originale du film La fiancée de Frankenstein. Eh ben oui, c'est là déjà, on pensait déjà sans doute à l'être hybride sur une certaine forme. C'est fini pour aujourd'hui et pas pour demain, ou du moins pour samedi prochain, jour où l'on se retrouvera pour parler d'e-tourisme. Ce magazine a été fait avec la collaboration éditoriale de Cap Digital. Il a été réalisé par Hélène Bizio avec l'aide aujourd'hui de Valentin Azan. Il est préparé par Léa Dupuy-Yannequin et Béatrix Moreau, et mis en musique par Thierry Dupin.